Attention. Voilà, bah on prolonge la fête, donc dernier numéro de Tribune Rugby ce matin. On va revenir naturellement sur cette belle finale et sur la victoire de l'Afrique du Sud, hein, 15 à 6, la France ayant donc terminé 4e, battue par l'Argentine 34 à 10. On va naturellement, avec toute notre série de consultants et consultantes, eh bien, revenir une dernière fois sur ces 7 belles semaines que l'on a vécues au niveau de la compétition. Jean-Michel, il n'y a pas eu d'essai, mais on peut dire que la finale a été d'un bon niveau, hein, pour le rugby. Hein.
Absolument, je cherche d'ailleurs mon papier. Mm-hmm. Hein? Alors, peu d'enseignements, diront certains, hein, ouais. Et pas mal de gens. Et pourtant, quelle leçon de rugby ? Tous les ingrédients étaient présents hier soir, on est bien d'accord, on en parlait hors antenne. Faut-il se dire que le rugby dit moderne est incompréhensible ? Pour moi, pas du tout. Hier soir, on a tout vu de ce qu'on peut attendre de ce jeu. Tout. Tous les fondamentaux, d'un côté comme de l'autre, ont été respectés, collectif, conquête, pas d'anti-jeu. Pas d'anti-jeu. Par contre, sur la petite finale, on va y revenir tout à l'heure. Pas d'anti-jeu, mais respect de la solidarité. Je ne dirais pas que cette finale fut phénoménale, non. Mais je dirais qu'il y avait plein, mais plein d'enseignements pour nos écoles de rugby. On va en discuter, nous avons une heure. Messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse ?
Alors, on va commencer. Je crois qu'on en parlait un peu hors antenne. Déjà, un des intervenants qui disait qu'une nouvelle fois, la défense a pris le pas sur les attaques, non, c'est ça ?
Ah oui. Oui, oui, en effet, la défense, bon, tout le monde l'a dit. Moi, j'avais la chance d'être au stade hier soir.
Ah oui, beau privilégié. Hein.
Et
alors ?
Et finalement, quand on regarde le match des tribunes, tout le monde joue à plat, quoi. C'est impressionnant. Il n'y a pas de profondeur sur le jeu. Comme il n'y a pas la possibilité de gratter, on en parlait sur les nouvelles règles il y a quelques temps, ouais. Ou les peut-être futures règles qui vont arriver, il n'y a pas de jeu.
C'est le rugby moderne.
Oui, mais le rugby moderne, c'est ça, le rugby moderne. Mais il ne me plaît pas. Je continue, je le redis. Ben, ce rugby-là ne me plaît pas. Ce n'est pas mon type de jeu. Donc, et là, ça a confirmé absolument ce que je pensais. Ça ne me plaît pas du tout.
Alors là, je pense que tu es en train de chasser sur les terres de mon ami là, qui est là. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec lui.
Qu'est-ce que je t'avais dit ?
Attention, je suis d'accord, c'était une belle finale.
Ouais.
C'était une belle finale. Mais voilà, toujours le mot spectacle arrive. Pas d'essai. Alors, pour les puristes, on va dire, oh, formidable. C'est pour nous, on a dit, c'est bien. Mais pour ceux qui voient cette finale pour la première fois, je vais dire, ah ben c'est ça le rugby. Ah bon, eh ben, je ne sais pas si mes enfants feront ça, parce que vraiment, c'est pas super, super, super. Voilà, et je suis tout à fait d'accord avec mon collègue là, qui, notre rugby... Dommage, c'est dommage. Ça a été créé, c'est pour aller marquer des essais, je vous le signale, entre parenthèses comme ça. Hein.
Je crois que c'est la deuxième finale sans essais, hein, après
oui,
la victoire.
Oui, absolument. Après,
c'est la victoire des Bocs.
Exactement.
Contre les Blacks.
Tout à fait. C'est un peu dommage parce qu'elle méritait. Oh, allez, un essai de chaque côté, ça aurait été formidable. Je pense que là, ça aurait été une superbe finale. Depuis quelques années, on aurait vu quelque chose de bien. Bien.
Lors du dîner d'avant-match, j'avais parié avec des Anglais sur 3 essais. Enfin, on était tous restés. Il y avait 3
essais pour les box.
Non, 2 essais pour les box et 1 pour les Anglais. J'avais quand même mis les Anglais perdants. Ouais. Au bout du bout, je ne pouvais pas faire autrement. C'était assez terrible. Mais juste un truc.
Ouais,
l'essai en temps normal, cet essai, il est accepté sans aucun problème.
Oui, mais il y a la vidéo maintenant.
Et dans ce cas-là.
C'est pas tout dans la finale, là.
Oui, parce que ça aurait changé complètement la physionomie du match. Les box auraient été obligés d'envoyer du jeu, même si parce que cet essai, c'était un essai de raccro, c'était une attaque plein centre, avec des plaquages manqués, des trucs. Ouais. On mystifie la défense sur une erreur de plaquage, c'est normal. Ensuite, eh bien, on envoie sur l'aile et ils vont marquer sur le bord, sur la ligne de touche. Mais il y a quoi ? Il y a un millimètre de genou, je pense, sur la ligne de touche.
Ouais, non.
Ah oui, mais la règle, il faut la respecter aussi.
Ouais,
hein.
Oui, exactement. Il y a une règle, t'es bien obligé de t'y conformer.
Exactement.
Donc, et c'est vrai que j'aurais été, moi, si je peux le dire, j'aurais été très mécontent si cet essai avait été marqué. Pourquoi ? Parce que c'est pas, il y a rien de construit. Il n'est pas construit cet essai. C'est un essai de volley-ball, quoi.
Oui.
Hein ? D'accord ?
Alors, moi, je pense que dans ce match, il y avait tous les ingrédients, comme vous disiez tout à l'heure. Il en manquait un, certes, l'essai.
Voilà.
Les essais, mais pourquoi ? Bien parce qu'il y avait des défenses qui étaient inviolables. Et ça, on ne peut pas reprocher à des équipes d'avoir des défenses inviolables.
Ouais.
C'était une des bases du rugby que de défendre pour mieux attaquer après. Ouais. Comment peut-on dire aujourd'hui, il n'y a pas eu d'essai, c'était pas beau ? Bien sûr que c'était pas beau, mais le spectacle, il était dans la façon de défendre, que ça soit chez les Sudaf ou chez les Anglais.
Ouais.
Ils étaient arc-boutés, et là, il y avait du spectacle. C'était splendide. À un moment, pendant 3 minutes, ils se sont battus comme des diables. Et moi, j'y ai vu du spectacle. Oui. On peut pas dire qu'il n'y avait pas de spectacle.
Il y avait de l'intention.
Alors, c'est peut-être pas du beau rugby, mais c'était des belles phases de jeu. Il y avait 4 temps, 5 temps, et ça repartait sans cesse.
Absolument.
Et il y avait un beau, beau spectacle.
Alors, j'aimerais avoir l'avis de l'éducateur, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était une finale qui était pleine d'enseignements pour nos jeunes. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Toi qui es éducateur, toi qui es au cœur du sujet.
On retrouve plus du rugby éducatif, tout à fait, ouais. C'est vraiment du jeu sur la largeur, sur la profondeur, balle en main, on avance un peu. Des pick and go qui s'écrasent pas forcément tous les 30 cm.
Ouais.
Donc la durée de vie du ballon était un peu plus posée. Donc on a eu plus de longueur de temps de jeu, comme disait tout à fait Didier là, c'est exactement ça, ouais. Par contre, pour revenir à l'essai, moi je l'aurais accordé. Je suis pas de votre avis justement, parce que pour le spectacle, ça aurait relancé le match. Parce que pour moi, le temps, là déjà, ça tourne un petit peu la physionomie du match, plus après les changements de Mike Catt sur blessure, plus le deuxième anglais à côté là, font que là le match bascule complètement. Parce que Mike Catt, avec son âge, son expérience, tient quand même la baraque. Jusqu'à maintenant, et pour moi c'est ce moment là c'est le moment charnière où le match bascule. Donc l'essai, moi avant je l'aurais accordé, parce que même si la physionomie de la phase de jeu n'est pas belle, mais pour le spectacle, moi je l'aurais mis, parce que ça aurait redonné un petit coup de fouet au match, un supplémentaire, et
possible.
Oui, mais alors possible. À ce moment là qu'est-ce que tu mets? Tu remets en doute les règles?
Est-ce qu'ils n'ont pas été mis en doute avant?
Non, parce qu'on dit bien, même qu'un centimètre sur la ligne de touche, il y a touche. Ou tu touches le poteau de coin, il n'y a pas essai.
L'anti-jeu n'est pas programmé dans les règles.
Ah, mais oui, mais l'anti-jeu, oui, on va revenir là, tiens, pour la troisième place, tiens, tout à l'heure.
Surtout que c'est même pas sûr qu'il y ait ce petit centimètre, puisqu'il a les pieds en l'air.
Moi, je ne sais pas,
mais il a mis du temps, quoi.
Dans le doute, tu t'abstiens.
Jean-Luc.
Sans la vidéo, il y avait essai, quoi. Je veux dire.
Voilà.
Aujourd'hui, la vidéo, les arbitres ont un peu tendance à s'en servir un petit peu trop. Et un petit comme peu de se disculper éventuellement d'avoir accordé ou pas un essai qui était plus ou moins valable.
Alors je vous signale.
Il y a quelques années, c'était bon, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci.
Je vous signale quand même que la vidéo rentre dans le Pro 14 et dans le Pro D2. Dans le Top 14 et dans le Pro D2. Mais pas seulement dans l'embute, mais dans les 22 mètres.
Oui, d'accord. Absolument.
Donc ça, je crois que c'est intéressant. Ça, c'est, à mon avis, c'est quelque chose de très positif.
Il faut faire attention, parce qu'on parlait déjà les semaines précédentes du football américain. On se rapproche de plus en plus du football américain dans ce cas.
Oui.
Bon, il faut faire attention, c'est sûr. Il ne faut pas qu'il y ait des dérivés, hein, parce que utiliser non plus.
À mon avis, si on accepte la vidéo dans les 22 mètres, ça va aussi faciliter pas mal de choses. Hein. Parce que dans les 22 mètres, il y a des phases quelquefois qui sont troublantes, quoi. Et laisser à l'appréciation de l'arbitre.
Alors, est-ce qu'on s'en servira uniquement pour juger les passes en avant, les essais, accepter ou refuser des essais, ou est-ce qu'on peut aussi, dans ce cas-là, contrôler le jeu et l'anti-jeu notamment?
Ben, j'espère. J'espère, parce que la petite finale contre l'Argentine, l'anti-jeu, on en a vu. Hein.
Exactement. Alors, ces matchs-là, est-ce qu'ils vont durer 2 ou 3 heures?
J'allais poser la question, combien ils vont durer? On va commencer à 9h du matin, et puis à minuit, peut-être, on pourra réveillonner.
Par contre, s'il y a la vidéo dans les 22 mètres, je disais que j'aimais pas le rugby moderne, je vais encore moins l'aimer, là. Ça va, il y a plus de place à l'improvisation.
Alors, j'aimerais avoir le trait d'humour de notre ami, là, qui tous les dimanches nous raconte quelques petites histoires assez sympathiques. Il n'y connaît rien en rugby, mais quand même,
il connaît bien, mais il connaît
pas le rugby comme beaucoup, quoi.
Il connaît mieux Guy Moquet. Hier, j'ai expliqué à des Anglais qui étaient Guy Moquet. En anglais, c'était très difficile. Et ils m'ont dit, mais C'est quoi cette histoire de Guy Moquet à la fin? Pourtant, j'avais passé une heure à essayer de leur expliquer. Bon.
Alors, l'ami.
Non, je vais revenir sur une explication que j'ai donnée la semaine dernière sur le syndrome anglais, le syndrome Jeanne d'Arc. J'ai eu beaucoup d'appels, personne ne l'a vraiment compris. Je vous rappelle que Jeanne d'Arc, elle, devait bouter les Anglais hors de France. Hors du Stade de France, ce que les Français n'ont pas réussi à faire. Voilà l'allusion au syndrome Jeanne d'Arc que je faisais. Alors, vendredi soir, j'ai regardé aussi un match. C'est la catastrophe. On a un gars comme Rafael Ibanez, il a appris à parler espagnol pendant tout le match. Mais il a appris que les jurons, les insultes. Il y a eu de l'anti-jeu flagrant qui n'a pas été sanctionné. C'est vrai que s'il avait été sanctionné, peut-être que le match aurait duré beaucoup plus longtemps. Mais il est vrai aussi que s'il avait été sanctionné, les Français n'auraient pas succombé à la provocation et faire que c'était un match automnal, puisque les châtaignes sont quand même très vite tombées. Alors, c'est dommage que l'arbitrage n'ait pas été à la hauteur. Mais bon, la France n'a pas perdu à cause de l'arbitrage. La France a perdu parce qu'elle n'a pas joué son jeu. C'est pas le French flair, c'est pas le jeu français que l'on a l'habitude de voir. On a encore un champion du monde qui est champion du monde sans marquer d'essai. C'est triste. C'est triste pour le jeu parce que si le rugby veut que les gens le suivent, il faut que ce soit du spectacle et non pas du combat. Cette Coupe du Monde, ça a été du combat tout du long, tout du long.
À partir les Français, des quarts de finale.
Les Français ont fait beaucoup de combats aussi. La preuve, leur victoire contre les Blacks, c'était un combat. Mm-hmm. Et ce qu'on retient tout le temps, c'est qu'ils ont gagné ce combat et tout. J'aurais préféré qu'on dise qu'ils ont gagné ce match, du moins qu'ils arrivent à gagner ce match en marquant des essais, du jeu au pied qui permet de transpercer ces lignes, qui montent à plat ou en diagonale, ou comme vous voulez, messieurs les techniciens. Mais qu'il y ait des essais, bon sang, c'est là le... Ce qui fait que le rugby sera toujours le rugby et deviendra surtout un sport apprécié par des gens comme moi et qui le suivront. Parce que hier soir, je me suis... Non, je ne le dirai pas, nous sommes à l'antenne.
Bien. Alors, puisqu'on est revenu sur cette petite finale qu'on a perdue, moi, j'ai envie de titrer La Grande Bouffe. La Grande Bouffe au propre comme au figuré. Des Argentins, hip, hip, hop. Quelle démonstration de solidarité, d'abnégation, de courage, de vaillance et de tricherie. Tout ça veut dire que cette équipe mérite ô combien d'intégrer un grand tournoi. Alors comment faire? Hémisphère sud, hémisphère nord, j'en sais rien, mais il va falloir trancher. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas concevable que cette nation ne puisse s'exprimer que tous les 4 ans. C'est inconcevable. Alors, faut-il peut-être revoir la géographie rugbystique du plus haut niveau? Bernard Lapassé, maintenant président de l'IRB, ça ne vous a pas échappé? Eh ben, il a du boulot, parce que je crois qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient et donner aux Argentins la possibilité d'intégrer un grand tournoi. Peut-être les Tri-Nations, peut-être le tournoi Destination, j'en sais rien, mais il va falloir le faire. Jean-Luc.
Effectivement, je crois que les Argentins sont venus chercher sont repartis avec ce qu'ils étaient venus chercher, quoi. On l'a vu depuis le début de la compétition, ils voulaient pas perdre et ils ont tout fait pour pas perdre, quoi. Et ce qu'ils voulaient, effectivement, c'est, comme tu le dis, intégrer un grand tournoi, quoi. Je crois que là, maintenant, on peut plus leur refuser, ouais. Ce qui, ma foi, paraît tout à fait logique aussi.
Exactement.
Ils voulaient y rechercher dans cette Coupe du Monde une reconnaissance.
Exactement.
Voilà. Alors maintenant, je pense...
Ce qui est logique, hein.
C'est tout à fait logique. Mais je pense que maintenant, elle est là et il va falloir prendre des décisions. Nous avons un président français, maintenant, il va prendre des décisions.
Il le faut. Et je crois que ça serait équitable pour les Argentins. Vous êtes tous d'accord avec cette analyse ou pas?
Oui, il faut qu'il rentre chez les grands, quoi. Ils ouais. y sont de toute manière. Donc,
c'est quand même la 4e nation du monde. Hein.
C'est la 4e nation du monde et qui a fait la démonstration d'une qualité qui se perd, à savoir faire mouiller le maillot et porter haut les couleurs de son pays, ce que nous n'avons pas su faire, parce qu'on a pris ça par-dessus la jambe. Mais les Argentins, ils ont travaillé pour leur pays.
Tout à fait.
Mais quand on parlait de violence et de violence verbale, moi je sais pas, mais quand je jouais au rugby il y a une vingtaine d'années, les entraîneurs que j'avais, certains étaient des grands entraîneurs, hein, même ils sont toujours des grands entraîneurs, ils nous disaient il faut déstabiliser l'adversaire de toutes les façons possibles, par le jeu en premier, ensuite par la violence qu'on va mettre dans les impacts que l'on va apporter dans les regroupements et les choses comme ça. Mmh. Et après par le psychologique, quoi, on va essayer de leur parler. Et on va leur dire ben, n'importe quoi, même peut-être des fois des choses qu'on pense pas. Mais ça fait partie du rugby, ça fait partie des secrets du rugby. Ce que ben, un spectateur autour du terrain ne va pas entendre. Mmh. Mais là, on l'a vu, c'est ça le problème. C'est que l'espagnol se lit très bien sur les lèvres, le français aussi de temps en temps. On entend maintenant ce que disent les joueurs aux arbitres. Donc, ce côté secret, ben, il l'est plus maintenant.
Mmh. On a assisté pour la première fois depuis 8 ans, je crois, que Laporte est entraîneur, à une équipe de France qui a craqué. Mmh. Elle a craqué devant la violence verbale de l'adversaire. Ça, c'est peut-être l'atout majeur qu'a apporté Laporte en équipe de France, c'est pas de faute, calmez-vous, on va vous traiter de tout, on va insulter vos mères et vos sœurs, ne craquez pas. Et c'est vrai que depuis 8 ans, on n'a pas craqué. On n'a plus vu d'essais, de pénalités sous le poteau à la dernière minute comme ça se faisait avant. Et pour moi, ça a été l'atout majeur, le gain majeur de l'ère Laporte. Or, avant-hier, on a tout perdu. Mmh. On a vu Ibanez craquer et balancer des bouffes alors qu'on n'avait jamais vu faire ça depuis des années. Ouais. D'autres se sont énervés et on a, en un match, perdu tout ce qu'on avait acquis et conservé pendant 8 ans.
Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que Laporte a laissé grande ouverte la porte, excusez-moi,
C'est vrai qu'elle était
au boss, quoi.
Je pense que Laporte a dit bah, écoutez, les gars, maintenant, lâchez-vous. Il n'y a plus rien à gagner, il n'y a plus rien à perdre. Il y a peut-être une ouverture, peut-être peut-on gagner ce match par. De cette manière, lâchez-vous. Ouais. Mais comme dit Jean-Luc, ils se sont pas lâchés.
Non, pas du tout.
Ils se sont pas lâchés, ils ont craqué.
Autrefois, si je peux me permettre. Alors, merci Didier. Autrefois, on disait, avant de rentrer sur le terrain, si vous n'y arrivez pas par le jeu, dégonflez-les.
Oui.
Ouais, ok. Oui. Alors, eh bien là, peut-être que Laporte, il a dit, eh bien, on va essayer de les dégonfler. Il manque de peau, mais la vessie, elle est restée toujours gonflée.
Oui, mais il y a quand même quelque chose qui m'a donné un petit goût dans la bouche de quelque chose de pas net. La France, elle a craqué. Et c'est vrai qu'à la fin, comme à l'ordinaire et ce qu'on voit souvent en rugby, les gens se sont étreints, ils se sont serrés la main. Et j'ai trouvé, moi, indécent pour les spectateurs qui avaient fait le déplacement, pour les téléspectateurs nous étions, de voir Laporte rire comme il riait à la fin du match. J'ai trouvé ça indécent.
Oui. Alors, j'aimerais, on va essayer de dédramatiser un petit peu ce match. J'aimerais vous faire partager quelques déclarations tonitruantes des joueurs du 15 de France, des instants qui m'ont été transmis par des journalistes amis. Vous allez voir que l'ambiance était au beau fixe vendredi soir et nous en reparlerons ensuite.
Attends, juste une petite chose avant que tu donnes les trucs. Moi, je me rappelle d'un match quand même, c'était, je ne sais plus en quelle année, il y avait une première ligne, c'était Moscato, Lascubé, et Simon contre les Anglais.
Ouais. 91, ça devait être.
Deux expulsés, dont une merveilleuse dernière à rentrer à mêlée avec, comment il s'appelle, ce troisième ligne, Jeff Tordeau, qui était passé au talonnage. Ça avait été merveilleux, on n'avait jamais vu ça. Et là, je pense que si le rugby était resté à l'état de ce match-là, on aurait vu la même chose contre les Argentins. Et là, il y aurait eu du spectacle. Là, on aurait vu un beau match. Mais non, on peut pas.
Alors, justement, les joueurs du 15 de France n'ont pas apprécié du tout l'attitude irrespectueuse des Argentins à leur égard. L'ambiance était même plutôt tendue dans les couloirs du Parc des Princes vendredi soir. Et le contentieux qui date du match d'ouverture devrait se poursuivre encore lors de la prochaine rencontre. Alors, la scène se déroule dans les entrailles du Parc des Princes peu après minuit. Alors que les joueurs du 15 de France répondent aux questions de la presse, dans ce qu'on appelle la zone mixte, hein, la fameuse zone mixte où on se retrouve un petit peu trop souvent, nous les journalistes, un vacarme sans nom se rapproche. Ce sont les Argentins qui arrivent dans cette même zone d'interview en musique, chantant à tue-tête et tapant sur les rambardes pour faire du bruit. Sébastien Bruno les interpelle et leur explique que ce n'est pas très respectueux. Le talonneur des Bleus est rejoint par Frédéric Michalak qui leur demande, mais sur un ton plus ferme, de s'arrêter. L'un des vainqueurs lui répond en repartant, « Mais Fred, on se connaît tous, tu sais bien que ce n'est pas contre vous. » Ambiance. Hein. Et ça a été comme ça pendant 2 heures. Hein. Visiblement, il y a un contentieux entre les Bleus et les Pumas. Ça n'a échappé à aucun des 45 000 spectateurs du Parc des Princes, pas plus qu'aux 13 millions de téléspectateurs du reste. Le match a été émaillé d'incidents, de petits coups assénés dans les rucks, des chamailleries. Quand un mec se met 5 fois de ton côté, il faut le sortir, pas lui faire la bise, dit Raphaël Ibanez. Et il a raison. Il a raison. Et lui-même avoue qu'il y a eu des altercations à la mi-temps, juste après son carton jaune, et peut-être même avant la rencontre. Ça va loin, hein ?
Ça, c'est du match.
En tout cas, c'est un état d'esprit que je ne peux pas cautionner, ajoute le capitaine. Bon, alors, toutes ces petites choses-là, qui existent depuis le premier match, hein, le match d'ouverture, ça a joué, quand même. Ça, c'est sacrément joué. Qu'est-ce que vous en pensez, tous, là ?
C'est le rugby.
Oui, effectivement, comme dit Alain, c'est le rugby. Et puis, je pense que les joueurs français sont... À mon avis, ils n'ont pas su réagir correctement, parce que en championnat de France, on les voit également se provoquer les uns les autres comme ça. Hein, tu regardes tous les matchs Stade Français, Stade Toulousain. À mon avis, on n'a pas de leçon à donner là-dessus. On est très fort aussi, on sait le faire entre nous. Pourquoi on n'a pas réagi aujourd'hui? Je me le demande, parce que on n'a quand même pas affaire à des enfants de cœur.
Oui, on est bien d'accord, mais c'est, on est quand même dans une période de Coupe du Monde, on est dans une Coupe du Monde qui n'a lieu que tous les 4 ans. C'est vrai qu'il faut défier, comme disait Michel tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut défier, mais pas n'importe quel prix. Quoi. Mais
les Argentins, ils ont été malins, je veux dire, ils ont joué sur la corde comme ils ont fait depuis le début de la compétition, et personne n'a été capable de les remettre à leur place, donc voilà, tant pis.
Ouais. Ils ont été plus fins que nous, parce qu'ils savaient qu'il y avait une faiblesse dans notre défense dans ce domaine, et ils savaient qu'en enfonçant le coin, ils nous feraient mal. Et Bishop, qu'est-ce qu'il a fait ? Sans arrêt pendant le match, il est allé ennuyer l'arbitre en lui faisant montrer ceci, cela. C'est lui qui a arbitré.
Oui, mais tout à fait.
Il y avait aussi une faiblesse au niveau de l'arbitre dans ce domaine, et il a enfoncé le coin là aussi. Et je trouve, moi, qu'on ne peut pas leur reprocher la chose. Ils ont très bien joué le coup.
En tant que joueur, en tant qu'éducateur, on apprend aux jeunes de jouer aussi avec l'arbitre. Donc, Pichotte, il l'a fait. Il a joué avec l'arbitre jusqu'au bout.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Exactement. Ouais. Je veux dire, jouer avec l'arbitre, ça veut dire aussi avoir le respect de ce qu'il a fait également. Enfin, il lui a donné l'impression d'être respectueux envers l'arbitre. Non, mais bon, quand on sent qu'il y a possibilité de passer, eh bien, ma foi, il ne faut pas hésiter. On leur apprend ça aux jeunes, il n'y a pas de souci.
Ce qui est un peu dommage, c'est que, c'est comme tu disais, Jean-Michel, c'est la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'elle nous amène? Des jeunes. Alors, voilà, c'est un peu dommage que ce soit... terminer un peu comme ça pour l'équipe de France, parce que je pense que bon, il y aura du monde, mais
on restera... qu'il y a vu la victoire, quoi.
Voilà, exactement. Et puis il peut y avoir des fêtes, mais des fêtes comme ça, non, c'est pas très beau. Tu vois, les parents diront ah c'est ça, et quand on montre Ibanez, capitaine, qui, boum, il en met une, vous comprenez,
c'est... Et qui balance une bouteille,
Une bouteille sur l'arbitre de touche. Vous comprenez, c'est un irrespect, et le problème, c'est les parents, parce qu'après, ils diront, ah, c'est ça le rugby, ah ben bravo, et c'est la Coupe du Monde, d'accord.
Pour moi, les Français, là où ils ont échoué sur la Coupe du Monde organisée chez nous, là, c'est sur le rôle éducatif. Autant la finale était belle par le jeu, donc avait un rôle éducatif, que la petite finale, excusez-moi, au niveau du jeu, il n'y avait rien à produire. Les joueurs, ballon en main, les joueurs étaient arrêtés, alors qu'on enseigne tout l'inverse. Prise de profondeur, il n'y en avait pas, on jouait aussi bien à plat. Et donc, de plus, l'énervement, le fait qu'ils aient craqué physiquement et ainsi de suite, mentalement, ce match est absolument à faire voir dans les écoles de rugby pour ne pas créer ce jeu-là.
Tout à fait.
Pas reproduire ce match-là. Quoi.
Enfin, je ne suis pas sûr que ça ait été le souci premier de l'équipe de France ce soir-là, de faire du jeu pour le montrer dans les écoles de rugby. Ceci étant, on peut se poser la question de savoir quel était leur souci, parce qu'ils n'ont rien montré.
Ouais, tout à fait. Mais non, c'est que... on s'est entendu tout à l'heure dire, Laporte a dit qu'il fallait rentrer en faisant en jouant comme ils avaient envie de jouer. Oui, je suis désolé, mais en voyant le match, j'avais l'impression d'entendre... Laporte n'a pas dit qu'ils n'étaient pas là, ils n'avaient pas de leader, ils étaient orphelins de tout, ils étaient orphelins du jeu, ils étaient orphelins d'envie, ils étaient, il leur manquait tout aux Français. Et par contre, il leur restait que la violence qu'ils avaient en eux de ce premier match, mais ils ne pouvaient la sortir que, je dirais, de cette façon-là, puisqu'ils ne pouvaient pas mettre du jeu. Ils avaient l'impossibilité d'attaquer, puisqu'ils n'ont jamais appris à attaquer ensemble. Ils n'avaient pas la possibilité de défendre, puisqu'on leur avait dit, il faut que tu attaques. Et voilà. Donc, du coup, il ne leur restait que cette violence pour essayer d'arrêter les autres.
Et Michalak, qui avait tout approuvé, hein, puisqu'il avait critiqué ouvertement Laporte, donc il avait tout approuvé dans ce match, et finalement, il s'est retrouvé accroupi, quoi.
C'est un futur requin.
Moi, je vous rappellerai une des définitions du rugby qui dit, je crois, que c'est un sport de voyous joué par des gentlemen.
Oui.
Les Argentins, ce qu'ils nous ont démontré, c'est que c'était un sport de voyous joué par des voyous. Alors, s'il vous plaît, ne cautionnons pas cette attitude.
Absolument.
Parce que, en plus, c'est des Argentins qui ont plus une culture de foot. J'ai eu l'impression de voir des footeux. Vous savez, ceux qui vont toujours discuter avec l'arbitre, etc. Ah bah, tu me siffles ci, tu me siffles ça. Alors, ne cautionnons pas l'attitude des Argentins qui, par leur provocation, a fait dégénérer ce match. Renforçons peut-être l'arbitrage pour qu'il ne cède pas trop facilement à ce genre d'attitude. Et puis maintenant, la France a joué ce match soi-disant plus ou moins libéré. Elle l'a joué sans ligne de conduite. Alors que toute cette Coupe du Monde, elle se prépare depuis plusieurs années, plusieurs stages, à jouer d'une certaine façon. Et là, on leur dit, jouez, essayez de jouer votre jeu. Et en fait, on a fait jouer des joueurs revanchards. Ce qui fait que ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait 15 Français qui ont joué en individuel. Et c'est facile, hein, quand on joue en individuel, comme ils ont joué, c'était pas une équipe. Et on prend 5 essais contre les Argentins, c'est pas normal.
Mais que les Argentins aient profité de la faiblesse relative de l'arbitre, moi, j'y vois pas malice. Cet après-midi, il y a Rambouillet qui joue à domicile. Si Rambouillet voit qu'il y a une faiblesse au niveau de l'arbitrage, il va s'enfoncer dans le gouffre. Et il va en user, il va en abuser, jusqu'à satiété. Et je vois là rien d'anormal. Il y a une faiblesse dans une défense, on s'y enfonce. Il y a une faiblesse dans l'arbitrage, on en profite. Et moi, je ne trouve pas qu'il y ait là quelque chose à redire.
L'arbitre, de toute manière. Il y a aussi ce problème de 10 ans, d'un seul coup, on change la méthode de jouer. Et ceux qu'on a fait rentrer, ils voulaient démontrer à toutes fins utiles que c'était pourquoi on ne les avait pas sélectionnés pendant la Coupe du Monde. Alors ils ont tout fait et rien fait.
Oui, le 11 particulièrement.
Ben oui.
Et qui est rentré, on va croire qu'il va avoir 200 ans bientôt.
Oui, oui.
Et il n'a plus rien à faire sur un stade depuis quelques mois, et on l'a fait rentrer comme on a fait rentrer Pelouse, qui à mon sens n'avait plus rien à faire en équipe de France depuis quelques mois, parce que tout le monde s'esclave en disant, oh mais il a fait un tournoi des Six Nations fantastique, moi je trouve pas, mais...
Didier,
c'est méchant pour les hommes,
une parenthèse, Didier. Tu dis rien à personne, hein.
Oui.
Personne ne nous entend.
Oui.
Il a demandé à venir de jouer à Rambouillet. Alors, mais
en réserve.
Seulement la réserve.
En réserve.
D'accord. Il ne faut pas le dire, hein. Vous dites rien.
Alors, bon, puisqu'on en est à la Galéjade, on va demander à nos charmantes représentantes, là, ici, qu'est-ce qu'il en est de la Chabalmania. Alors, Géraldine,
oui.
J'aimerais savoir ce qu'il en est de la Chabalmania.
Eh ben, je suis tombée dedans, en fait, dans la Chabalmania. Je n'avais jamais vu un seul match de rugby avant cette Coupe du Monde. Honte à moi, parce que j'ai été élevée avec un père qui était fou de rugby. Donc, je suis tombée dans la Chabalmania dès les premiers matchs, en fait. Dès qu'il est rentré sur la pelouse, pour moi, ça a été la révélation. Carrément la révélation. Et je me régalais, en fait, quand il arrivait. Donc, la première demi-heure de match, en général, ne m'intéressait pas trop. Je suis désolée, mais la deuxième partie, en général, me plaisait bien.
Alors, vous aurez tous compris que Géraldine, c'est ma fille. et à côté d'elle, nous avons une Néerlandaise qui a découvert le rugby à l'occasion de ce mois de Coupe du Monde. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il va te rester?
Moi, je ne suis pas tombée dans le panier de Chabal, mais j'ai un beau-père qui aussi était bien piqué par la maladie rugby.
Alors que tout le monde connaît, quand je vais dire son nom, c'est l'ami Franck Casal de la CBB. Et Léonie est mariée avec son fils.
Voilà. Donc alors, j'ai entendu parler beaucoup de rugby. C'est une religion, j'ai bien compris. Mais c'est vrai qu'en Hollande, ce n'est pas très connu.
Ah, quoique vous avez une équipe de rugby en Hollande et qui tourne pas mal.
Bah, je viens d'apprendre.
Les féminines, je crois, Jean-Michel aussi. Hein.
Et il y a les féminines aussi. Il y a également
une équipe féminine, je crois.
Ouais. Une équipe féminine. Ouais, ouais.
Ah, c'est tout à fait.
Ouais, ouais. Mais par contre, les garçons ont une équipe qui joue les qualifications de la Coupe du Monde chaque
qualification.
Tous les 4 ans. Oui. Tout à fait. Et ils ont même battu l'Espagne, je crois. Les Pays-Bas ont battu l'Espagne.
Bravo.
Et ils avaient pris moins de points quand ils avaient joué. Je me rappelle, j'avais vu ce match-là contre les Anglais. C'était pour la qualification, je crois, à la deuxième ou troisième Coupe du Monde, où ils avaient pris un petit 108 à 0 ou à 6. Je ne sais plus, l'essai était à 6 points à cette époque-là. Donc c'était pour la deuxième Coupe du Monde.
Ouais.
Et ils avaient fait un très très beau match. Ils s'étaient fait prendre qu'en contre et par la puissance, c'est tout. Mais voilà. C'est une belle équipe. Comme les
Belges. Il y a l'espoir alors.
Donc Léonie, par contre, est-ce que ça t'a plu?
Oui, ça m'a plu. J'ai toujours entendu par ma belle-mère que c'était un sport de brute. Et effectivement, c'est très, 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 très physique. Mmh. Et il faut connaître un peu les règles du jeu pour pouvoir apprécier tout ce contact physique. Mmh. Mais c'est vrai que ça m'a bien plu. Oui, 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 moi, je suis convaincue.
Alors, tu as entendu tout à l'heure qu'on disait que tout ce qu'on peut faire auprès de l'arbitre, c'est légitime. Or, tu ne le diras pas à ton beau-père, hein. Mais ton beau-père était le grand spécialiste.
Je m'en doute.
C'était lui qui arbitrait sur le terrain. Alors, Géraldine, on va... alors, il faut savoir que Géraldine travaille dans la société... Dans la société de jambon, pour laquelle Bernard Laporte a été
l'ambassadeur.
Alors, Géraldine, explique-nous un petit peu qu'est-ce que ça a donné, quelle était l'ambiance dans l'entreprise.
Eh ben, en fait,
dans le sandwich.
Bon, ce qu'il y a, c'est que dans un certain journal, il y avait Cabu qui faisait régulièrement des caricatures donc de Laporte avec cette fameuse marque. Ouais. Pratiquement toutes les semaines, on avait droit à une petite caricature, donc ça, c'était sympa. Ouais. À chaque fois, il parlait de jambon et c'était très marrant. Mais par contre, à chaque fois qu'il y avait une veille de match chez nous, c'était l'ambiance. On jouait au rugby dans les couloirs de l'entreprise, en fait. Ouais, c'était vraiment on se cachait parce qu'on savait qu'on allait se faire plaquer. Il y avait quand même, ça a joué énormément au niveau de l'ambiance dans l'entreprise. Ouais.
Et alors, au niveau du chiffre d'affaires, ça a explosé ou pas?
Ça a aidé. Au niveau, il paraît dans les statistiques, c'est les hommes célibataires qui ont acheté un peu plus de jambon, effectivement.
Ah bon?
Au niveau des statistiques, c'est...
Ça
s'est révélé. Ça s'est révélé, effectivement. Le jambon star a explosé au niveau des célibataires.
Alors, bien. Qu'est-ce que vous avez encore à dire sur ce... Mesdemoiselles, sur ce... Mesdames, pardon. Oui. sur cette épopée de l'équipe de France. Quelles ont été les grosses révélations qui vous sont... À part Chabal. Hein.
À part Chabal, oui. Ça
Chabal,
a été,
on le met de côté. Hein. Ah, oui. D'ailleurs, Chabal a pris une très très belle bouffe.
Il a été carrément mis à terre, oui. J'ai vu. J'aimais bien quand il le faisait aux autres, mais j'aime pas du tout qu'on lui fasse à lui. Donc ça a été. J'ai eu de la peine pour lui. Et j'ai pleuré avec lui, d'ailleurs, à la fin de quart de finale. Quand, ouais. Ouais, ça a été très touchant, je trouve. Et moi qui ai toujours trouvé le rugby très brutal, celui que j'ai préféré, c'était quand même la brute de service, mais qui a l'air d'avoir un grand cœur. Donc,
Léonie.
Mais moi, je trouve que le rugby, c'est un sport intéressant.
Ouais.
Mais ça reste un sport quand même. Donc, tout ce qui touche à l'anti-jeu, les injures et tout ça, moi, je pense que ça fait part du sport. Et pour moi, ça rentre dans la catégorie du foot.
Et tu irais plus facilement voir un match de rugby, par exemple, à Rambouillet
à fait. Oui. Oui, ça m'a quand même ouvert.
Ça, c'est
porte,
positif. Hein. Ils ont trouvé une marraine.
Alors, ben, vous êtes invité à la prochaine rencontre. On récupère notre stade, je crois, au mois de novembre. Eh bien, vous serez les bienvenus.
On sera là. Pas de souci.
Et il y a la troisième mi-temps. Et il y a la troisième
mi-temps. La fameuse troisième mi-temps. On en a entendu parler.
Bien. 10h39, ben on a encore un petit peu de temps pour rigoler.
Un peu de temps, Moi, je voulais savoir, Jean-Michel, est-ce que le stage de l'équipe de France n'a pas été trop long? 3 mois, parce qu'il faut gérer les hommes.
Alors,
et puis, est-ce qu'on ne s'est pas vu trop beau? Parce qu'il y a quand même, l'essai des Blacks, Michalak, l'an avant, l'histoire peut s'écrire différemment quand même.
Oui, mais écoute, si c'est un bilan que tu as envie de faire, non, moi je ne ferai pas de bilan de cette Coupe du Monde aujourd'hui. C'est trop tôt et je ne suis pas prêt, j'ai besoin de recul, de sérénité. Il y aura plein de choses à dire, à analyser, à décortiquer, à formaliser. Aujourd'hui, il est trop tôt. Je ne sais pas si vous êtes d'accord tous.
Moi, tout n'a pas été négatif, mais loin s'en faut. Il y a des espoirs. J'ai vu des lueurs qui s'appelaient du sautoir.
Oui.
Des jeunes comme ça qui arrivent et qui, n'en doutons pas, seront là dans 4 ans. Il y a des noms à retenir, il y a une ossature à former. Bon, ça sera le travail du prochain entraîneur, sélectionneur, coach, appelez ça comme vous voulez. Donc là aussi, des noms circulent. Mais je suis impatient de savoir qui ça sera, pour savoir si effectivement il y a quelque chose à aspirer de ce côté-là. Mais il y a des noms qui sont sortis du chapeau. Je rappelle du sautoir, mais bien d'autres aussi. Et ça, pour moi, c'est porteur.
Oui. Alors, tiens, on va faire un petit tour de table à propos du futur ou des futurs remplaçants de Laporte. Moi, j'ai entendu une petite indiscrétion il n'y a pas si longtemps que ça, puisque ça date de hier à 4h, à 16h. Il s'agirait d'un ticket entre Marc Lièvremont et Ntamack.
Oui.
Toi aussi, t'as entendu ça? Bon, et qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien, nous, Mike et moi avons notre téléphone qui n'arrête pas de sonner, mais bon, on n'est pas disponible.
Comme Galtier, quoi, ils sont pas disponibles.
Ntamack, déjà, est dans le giron.
Attends,
dans les moins de 21 ans.
Dans les moins de 21 ans.
Il a quand même amené l'équipe des moins de 21 ans champion du monde.
Mais c'est bien pour ça. C'est là où je voulais en venir. Bon, s'il y a quelques Lièvremont ont apporté quand même au rugby français quelque chose de bien. Alors pourquoi pas? Mais oui, un tandem, Ntamack Lièvremont, ce serait. Moi, je crois que ce serait pas mal. Je sais pas. Est-ce que ça sera eux? Ça, je sais pas.
Chapeauté par qui alors? Mais attention, parce que Joe Mazo, lui, son contrat a été reconduit.
Oui, il est reconduit pour 4 ans.
Eux seraient coach, et qui serait le sélectionneur alors?
Mais ils seraient peut-être les deux sélectionneurs.
Eux, ils seraient sélectionneurs. C'est-à-dire qu'il y en aurait un qui prendrait les avant, évidemment Marc, Lièvremont, et puis l'autre qui s'occuperait des arrières, donc Milou, Ntamack. Alors qu'est-ce que ça peut donner au niveau? Ils vont s'engueuler quand il va falloir monter l'équipe. Ils vont s'engueuler. Mais tant mieux.
Bah oui, c'est comme ça au moins que ça avance. Les noms qu'on avait entendus là depuis quelques jours, ça y est.
On en parlait hors antenne. En parlait hors antenne. Qu'est-ce que tu veux qu'un type comme Saint-André vienne jouer en France pour gagner, vienne entraîner en France pour gagner deux fois moins qu'il touche à Sale en Angleterre et en plus, il va payer des impôts.
Il ne
paye pas d'impôts.
Imposé 60% en France.
Mais c'est sûr.
Noves, bon, je pense qu'il est dans le même cas.
Galtier,
idem.
Mais Galtier, il l'a pratiquement dit, on ne me l'a jamais demandé. Alors, il a pratiquement dit, moi, je reste au stade.
Alors, qu'est-ce qui reste?
Mais ça serait une bonne solution, Ntamack.
Il
y a vraiment. Par contre, il y a une personne qui devrait intégrer le staff. Je dirais pour les aider à voir la presse avec son bagou et tout, un petit peu sa science. Je pense que Philippe Sella, à la place de Joe Mazo, ça serait très bien. Joe Mazo restant le manager général, mais le manager général, il pourrait s'occuper, je dirais, de choisir la couleur des maillots pour jouer contre les Blacks. Ça serait une bonne... de la presse, ça serait sympa. Ouais, une bonne reconnaissance.
Non, le gentil Joe Mazo, je l'appelle comme ça, hein, le gentil Joe Mazo peut très bien remplacer Duniac, qui ne sert à rien, lui.
Jean Dugnac ne sert à rien.
Enfin, Jean-Michel, quand tu dis le gentil Jomazo, ça veut dire il est bien brave.
Oui, il est bien brave. Oui.
Ouais, enfin, ça va pas loin, ça. Hein.
Jean-Michel, tu sais bien que dans le rugby, il y a beaucoup de gens qui servent à rien.
Aussi. Mais, des copains qui sont arrivés à la Fédération française, il y en a un paquet.
Et du nouveau président de la Fédération française, parce que Lapassette est en partie président de l'IRB, et je pense qu'il ne restera pas président de la Fédération française de rugby.
Pendant 6 mois, il peut.
Oui, mais ça a une grosse influence aussi pour la sélection. Des sélectionneurs futurs.
Ouais. Oui, non, mais je pense que ça y est, dans la tête...
Qui vois-tu comme futur président? Parce qu'il sera important, son poste.
Oui, tu sais, il y a pas mal de monde. Hein, c'est sur le... Bon, il y a par exemple l'ancien arbitre, comment s'appelle-t-il
Michel Chapouli.
Non. Ourquet qui peut très bien...
Il a pas le charisme.
Oui, mais il a l'envergure. C'est quand même lui qui tient les cordons de la bourse. Hein.
Michel Chapouli.
Michel Chapouli.
Ne m'énerve pas, parce que c'est...
Voilà, bon, moi ce ticket Lièvremont-Intamac me va bien, quoi.
Non, mais effectivement, moi je crois que le fait de travailler entre guillemets en couple est très important, parce qu'on a un maximum d'échanges, on a des avis bien sûr qui diffèrent, et c'est à ce moment-là qu'on se doit en plus d'expliquer chacun à l'autre le plus ou le moins de tel ou tel joueur. Moi je trouve que c'est très intéressant. C'est ce qu'on fonctionne tous dans les petits clubs comme ça, par paire ou trio, et je crois que ça se passe très très bien.
Et on n'a pas dit quel Lièvremont.
Marc.
C'est toute la famille.
Mais
comme l'Espagnol.
C'est comme l'Espagnol. Et dans tout club, il y a pas qu'un entraîneur, il y en a plusieurs. C'est pour ça. Bon, là, il serait peut-être sur le même pied d'égalité. Hein, il serait co-entraîneur, mais numéro un tous les deux. Parce que là, il y en a un, c'est Laporte. Mais après, il y en a d'autres qui donnent leur avis aussi. Ils ne composent pas l'équipe tout seul.
Il y a Brunel, il y a Viviès.
Il y a Viviès et compagnie. Alors, c'est pour ça que... au niveau financier, ça serait pas la même chose. C'est pas la même chose quand ils sont seuls ou qu'ils sont à deux. Mais c'est tout. Hein.
Dans tous les clubs de France, il y a un entraîneur des avants et un entraîneur des trois quarts. Sauf dans un club que je connais, c'est à Tarbes, il y a deux demi de mêlée pour entrer les avants et les trois quarts. Ça, c'est une autre histoire. Ils jouent en Pro D2. Si voilà. On arrive à faire des équipes quand même avec un entraîneur des avants et des trois quarts. Chacun discute et puis en plus ça crée un débat, je dirais, sur la façon dont on doit jouer après. Et ça c'est intéressant. Si on n'a qu'une seule idée et qu'on se fixe là-dedans, exemple Bernard Laporte, je suis désolé, on va droit dans le mur et on reste pendant 8 ans à faire n'importe quoi.
Alors, on va maintenant répondre un petit peu à la question de Philippe. Est-ce que le stage a été profitable ou pas? Est-ce que ce stage commando n'a pas été trop long?
Moi, je pense qu'il a été trop long. Ouais. Non, c'est vrai, hein, 3 mois.
Gérer les hommes, c'est difficile, c'est tout le monde le dira. Hein,
c'est énorme. Le physique, ah bah oui, ils étaient fatigués quand ils sont arrivés, c'est fou ça. Ouais.
Michel, aurais-tu dit la même chose avant l'entame de la Coupe du Monde? Parce que c'est facile, à mon sens, de dire après, on a perdu, ça a été trop long, on les a fatigués, ceci, cela. Est-ce qu'au moment de l'entame du Coupe du Monde, au coup de sifflet de départ de France-Argentine, tu aurais dit, ils sont fatigués, ils sont épuisés par leurs 3 mois?
Ah mais ça, non, moi, voilà, je ne suis pas spécialiste, mais c'est maintenant, c'est a posteriori qu'on parle là.
Non, mais c'est pour la gestion
là.
D'un groupe. La gestion d'un groupe.
Ah ben les Sud-Africains aussi.
C'est la gestion d'un groupe.
Mais ils ont tous fait ça. Les Anglais, ils ont fait ça aussi.
Les Sud-Africains aussi, ils ont fait 3 mois de préparation.
Oui, mais alors, comment ont fait les Anglais? C'est là que je ne comprends pas très bien. Les Anglais, qui se permettent quand même de prendre 37 points contre les finalistes d'hier. Et puis, moi, il faudrait qu'on m'explique. Est-ce qu'ils faisaient moins dans leur préparation physique? Ils étaient moins fatigués? Ou alors, ils ont laisser couler quelques matchs.
Pour les Anglais, c'est Wilkinson le mot.
Ah oui, c'est Wilkinson.
Les délais de rasoir.
Ah d'accord,
la première lame,
il en a 4 lames, lui.
Et pour la France, le commando a été très bon parce que sinon, ils n'auraient jamais sorti le match contre les Blacks.
Oui, je suis pas loin de partager ton point de vue.
C'est celui-là surtout qui a conditionné la suite de l'équipe de France, c'est prendre les Anglais après les Blacks. c'était mortel.
Mais ça s'est reproduit. Ça s'est reproduit encore cette année. Les fois d'après, les fois d'avant, ça se produisait aussi. On jouait la finale avant la finale.
Ouais, pourquoi l'équipe de France a toujours du mal à rééditer un deuxième match?
Reconduire l'équipe qui gagne, c'est bien. Mais avec l'intensité qu'il y a contre les Blacks, moi je dis, il aurait fallu changer des joueurs.
Ouais. C'est l'émotion. C'est la gestion de l'émotion.
Également, pareil. À contrario, si jamais ils perdent, de toute façon, ils perdent contre les Anglais avec une équipe renouvelée, on va dire,
c'était pareil. Ouais.
Pourquoi il a renouvelé l'équipe? On ne change pas une équipe qui gagne. Alors,
le mal français. Le mal français de la critique négative.
Ouais, c'est une arme à double tranchant. Quoi. C'est, hein, qu'est-ce que vous en pensez, là, tous?
C'est tout à fait ça. Hein.
Bon.
Très bien. Allez, on marque un petit break et puis on finit, Jean-Michel.
Allez, d'accord.
Allez, un break musical, on y va.
D'accord.
RVE 103.7.
Oui, sur les 103.7, il nous reste encore 7 petites minutes. Alors, Jean-Michel, est-ce que l'ambiance était vraiment terrible donc, dans cette équipe de France? Il y a eu des infos comme quoi il y a eu une grogne et donc l'affront de certains.
Mais on peut dire une rébellion, carrément, une rébellion de certains joueurs, notamment de Michalak. Mm-hmm. Et alors, est-ce que c'est pas ceci qui explique cela? C'est-à-dire que Laporte a vu que peut-être il avait plus la main, tout au moins pour ce match, il avait plus la main. Et est-ce que c'est pas ça c'est pas son attitude de qui aurait consisté à dire bon ben les gars vous en voulez plus, eh ben démerdez-vous.
Michalak il a beau dos aussi de dire que Laporte ceci, Laporte cela, il lui a quand même offert 50 sélections, je crois. Il a été repêché il avait pratiquement sa place assurée avant la sélection au mois de juillet là. Je crois qu'il ne faut pas non plus trop cracher dans la soupe, ces messieurs ils sont gentils quoi.
Il a eu de la chance de jouer en plus parce qu'il y avait des joueurs extraordinaires en numéro 10 à cette époque là, du moins comme Yann Delegue par exemple, qui était au top de sa forme avec Toulouse, qui jouait devant Michalak, et Michalak était lui en équipe de France parce qu'il était copain avec Laporte. Aujourd'hui il faut arrêter de pleurer, voilà. Je pense que ces joueurs là ils ont raté leur coupe du monde pour certains. D'autres ont explosé et on les reverra, mais il y en a certains qui feraient mieux
d'avoir un peu d'humilité, il faut observer aussi que Michalak, sa critique vient lors du dernier match, il eût été plus courageux de sa part de la faire avant le premier match, mais il y aurait eu des conséquences.
Oui, bien sûr. Donc, il fallait peut-être.
Il manquerait plus quand même que Dominici maintenant critique Laporte.
Ça serait la cerise sur le gâteau. Ça serait la cerise sur le gâteau, effectivement.
C'est peut-être écrit dans son livre.
Non, mais. De toute façon, moi je maintiens que Laporte a été un très très grand technicien, un très très grand, et il le demeure, un très grand technicien, et je trouve très malvenu les critiques de ses propres joueurs, quoi. Ceci dit, bien sûr, on peut tout.
Je suis pas d'accord avec toi. Laporte, c'est pas un grand technicien. Laporte, il a eu la chance de jouer dans une équipe lorsqu'il jouait, qu'il a amené la reconnaissance parce qu'il avait un pack de devant qui était énorme. Mais derrière, je suis désolé, il n'y avait pas de jeu. Tout se passait devant. C'est ce qu'il a apporté. Et ensuite, lorsqu'il a amené, je dirais, le jeu en équipe de France ou même au Stade français, ça vous jouait aussi devant à cette époque-là. C'était assez terrible, on voyait que du jeu d'avant. La tortue béglaise a été portée pratiquement à Paris. Ça marche, c'est certain, sauf qu'il n'y a pas de jeu. Moi, je m'ennuyais quand on voyait Bègle jouer. Ouais. Je me rappelle d'un match à Nice, Bègle-Nice, où il y avait eu 5 essais des Béglés, 5 essais de devant et 5 essais de tortue béglaise. c'était assez terrible, cette affaire.
Oui, non, mais quand je dis que c'est un grand technicien, c'est quelqu'un qui possède toutes les ficelles du rugby moderne, monsieur Michel, du rugby moderne.
Mm-hmm. Hein, bien sûr.
Tu vois ce à quoi je veux faire allusion.
Oui, je suis un vieux, je sais.
Non, non. Je t'ai dit l'autre jour que...
Oui, bien sûr.
Non, je te comprends. L'autre jour que tu réagissais comme un vieux con. C'est-à-dire que... ça veut dire quoi? Ça veut dire que de mon temps, on faisait ceci,
Ah non, je sais quand même reconnaître ce qui est beau, ce qui n'est pas beau.
Hein, d'accord. Mais moi, je voudrais plus. Ça y est, c'est fini le rugby. Je voudrais conclure quelque chose. Je voudrais vous dire quelque chose là à tous, hein, et surtout à vous, les journalistes. Vous savez, la première émission, je vous ai chambré. Je vous ai dit, vous les avez montés en épingle, vous les avez vus champions du monde avant qu'ils le soient. Hein. Je ne regrette pas ce que j'ai dit, mais ce que je voudrais dire, c'est vous remercier énormément, très, très, hein, très fortement, de nous avoir permis à tous de, ben, de s'exprimer.
Bon, on est là pour voilà. Ça, hein, Michel. On est là pour ça.
Mais c'est formidable parce que c'est vrai que voilà, on ne pensait pas le faire et on l'a fait et c'est très bien. Merci
très bien, encore. Bah, ça sera le mot de la fin. Merci Michel. Puis on va remercier tous ceux qui sont venus à notre... voilà.
Merci les gars. Hein,
et tous ceux qui sont venus... voilà. Tous ceux qui sont venus à notre micro, Jean-Michel.
Oui, c'est vrai.
Il y en a eu. Il y a eu Étienne Bonamy, Jean-Frédéric Poisson et puis
tout à fait.
Jean-Claude Séguier, entre autres, en plus de tous les autres intervenants. Voilà, allez, alors, on prolonge avec Chevreuse aujourd'hui.
Petit mot, cet après-midi, Chevreuse rencontre à domicile l'équipe de Goussainville, région parisienne. C'est du Fédéral 3 et l'entrée est libre. Et je vous invite à y venir parce qu'il fait très très beau en plus. Et là, vous pourrez découvrir du rugby. Du vrai.
Et alors, je rappelle que nous sommes partenaires avec Chevreuse et puis autant qu'avec Rambouillet. Mais il y a un petit point nouveau, c'est-à-dire que notre banderole RVE sera sur le terrain de Chevreuse.
À Chevreuse, il y a 4 barbus avec des cheveux longs.
Allez, merci messieurs, on s'est régalé pendant ces 7 semaines de ballon ovale. On retrouvera Tribune Sport la semaine prochaine entre 9h et 11h et ensuite le retour du foot qui était entièrement derrière le ballon ovale pendant ces 7 semaines à partir du 4 novembre entre 10h et 11h. Bon dimanche, bonne semaine et vive le sport, vive le rugby. On vous laisse avec Radio Village, bye bye.
Salut à tous et merci. Je
Bon dimanche, RVE, il est 11h.